C'est la question que nous vous posions hier dans cette spéciale D-Day. Hein. Vous sentez-vous, oui ou non, concerné par le 80e anniversaire du débarquement? Eh bien, moi, j'ai été très surpris des résultats, Blaise. Il y a quand même 73% de nos auditeurs qui ont répondu oui sur Facebook, 60% sur Insta et sur X, anciennement Twitter, 75%. Je n'imaginais pas qu'autant de gens se sentent concernés par le 80e anniversaire du débarquement. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'en parler avec notre invité que je vous laisse le soin de nous présenter, Blaise.
Chantal Castellot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, responsable d'histoire publique au Centre d'études guerre et société aux archives de l'État. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïca. Alors, vous avez entendu les résultats. Effectivement, la majorité de nos auditeurs se sentent concernés par le 80e anniversaire du débarquement qui s'est passé quand même à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous. Ça vous étonne ?
Non, ça ne m'étonne pas. Effectivement, on se rend bien compte combien aujourd'hui cet événement a pris une proportion tout à fait importante dans notre mémoire collective. Je dirais les commémorations sont à chaque fois l'occasion de mise en scène, de diplomatie, de rencontres importantes. Aussi, on ressort des images d'archives, voire on en découvre encore de nouvelles. Je crois qu'effectivement, je dirais que c'est une espèce de success story que cette visibilité du débarquement. Et c'est d'autant plus intéressant que au sortir de la guerre, c'est le tout début des instituts de sondage, et il y a un sondage qui est mené en France en 1945, et on demande aux sondés quel est selon vous le pays qui a contribué le plus à la défaite de l'Allemagne, et à cette époque-là, une majorité de sondés répond l'Union soviétique. Et le même sondage a été réitéré par la suite en 1994, 2004, etc. Et on se rend compte à ce moment-là combien il y a une inversion, c'est-à-dire que progressivement, l'importance du rôle de l'Union soviétique est complètement marginalisée et le rôle des États-Unis apparaît comme tout à fait majeur, comme tout à fait dominant. Et évidemment, ce n'est pas le contexte actuel de la guerre en Ukraine qui risque encore de bouleverser la donne. Donc, je dirais, dans cette mémoire collective, le cinéma a bien sûr grandement participé à ça. La guerre froide a contribué à cette visibilité, mais aussi toute cette diplomatie mémorielle qui est mise en place en grande partie à partir de la période de François Mitterrand, hein, parce qu'on sait que le général de Gaulle était lui beaucoup plus réservé sur ses commémorations du débarquement, parce qu'il avait été un peu marginalisé à l'époque par les grandes puissances, Grande-Bretagne et États-Unis, mais à partir de la période de François Mitterrand, ça devient véritablement un lieu symbole, et on y invite aussi des responsables politiques allemands, ce qui nous montre bien qu'on est dans une autre période, qu'on est sorti en quelque sorte de cet impact, de ce conflit majeur, qu'on est dans l'ère de la réconciliation.
Vous avez évoqué la place du débarquement au cinéma. On parle de la plus grande opération amphibie et aéroportée de l'histoire. On peut le voir par exemple dans Il faut sauver le soldat Ryan. Est-ce que c'est ce côté spectaculaire qui passionne les gens ?
Alors je crois qu'il y a un peu de ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Bon, il y a tout le contexte aussi de préparation, de tromperie des Allemands. Donc je veux dire, là, il y a une opération de propagande incroyable et qui va réussir, effectivement. Il y a aussi cette idée, ben, au fond, de ces soldats qui viennent de loin pour libérer l'Europe, un petit peu comme en 1917, les États-Unis sont intervenus dans la Première Guerre mondiale. Donc il y a un côté un peu nos libérateurs, nos sauveurs, ce qui explique aussi, je dirais, cette idée d'une reconnaissance très forte que doivent avoir les puissances européennes par rapport aux États-Unis dans ce débarquement. Mais effectivement, ces images, elles ont fait le tour du monde et elles ont marqué nos mémoires, et on est véritablement dans des lieux qui vont aussi cultiver, hein, aujourd'hui, si on se rend sur ces plages de Normandie, ben c'est véritablement l'actualité. On a aussi maintenant, ce qu'on n'avait pas par le passé, des opérations de reenactment, donc on rejoue les scènes du débarquement, donc on veut encore les maintenir plus vivantes qu'elles n'ont jamais été. Donc je dirais que le type même d'opération militaire conduit effectivement à une super visibilité et à une super mémorialisation de l'événement.
Puisque
la guerre sur le front de l'Est, dont finalement, à l'époque, on n'a pas énormément d'images, et donc c'est quelque chose qui ne va pas marquer les mémoires collectives, puisqu'on ne les a pas vues et revues sur des écrans.
Faisons appel à notre côté chauvin avec vous, si vous le voulez bien. Il y avait des Belges qui étaient impliqués dans ce débarquement. On parle des airs principalement, où il y avait deux escadrilles de chasse composées essentiellement de pilotes belges.
Oui, effectivement. Alors, il ne joue pas un rôle majeur, je dirais, le 6 juin même. Mais par la suite, effectivement, ils vont participer aux opérations du débarquement. Et bien évidemment, dans nos mémoires, on se souvient du rôle que va jouer la brigade Piron. La brigade Piron, elle arrive plus tardivement, elle arrive au mois d'août, mais elle va contribuer effectivement à libérer une série de villes françaises. Et il y a d'ailleurs des monuments qui lui rendent hommage sur le territoire. Je pense par exemple à Pont-Audemer. Et donc là, il y a tout un rôle qui est joué par cette brigade. Et je dirais parallèlement, il y a aussi d'autres Belges qui jouent un rôle majeur, que ce soit en termes de préparation, des ingénieurs, des météorologues. Donc il y a effectivement, je dirais, une participation belge à ces opérations du débarquement, mais dont on va nous surtout garder en mémoire, je dirais, la performance de la brigade Piron, et là aussi, je dirais, les souvenirs à travers la libération de Bruxelles, où la brigade Piron arrive le 3 septembre au soir dans les rues de la capitale.
Quel est son rôle exactement à cette brigade Piron ?
Alors son rôle, elle est en quelque sorte, je dirais, il y a à la fois un rôle stratégique. Au fond, l'armée belge a été défaite après 18 jours, donc je dirais le prestige de l'armée belge pendant la Deuxième Guerre mondiale n'est pas un prestige très fort, hein, si on compare avec la Première Guerre mondiale. Et donc il est important pour le gouvernement belge qui est à Londres à partir de 1940, de montrer qu'on va participer à l'effort de guerre des Alliés. Alors cette participation, elle, bien sûr, elle peut se traduire par l'engagement du Congo, hein, c'est un des atouts stratégiques majeurs du gouvernement belge à Londres, mais aussi par des opérations militaires. Et donc on va préparer la libération, on va reconstituer en quelque sorte cette armée belge, après bien des déboires, hein, les choses ne se passent pas, c'est pas un long fleuve tranquille, parce que ce monde des officiers qui est réfugié à Londres est divisé entre des pro-léopoldistes, des anti-léopoldistes. Donc il va falloir, je dirais, tout le charisme d'un Piron pour arriver à finalement mettre sur pied cette brigade qui va participer à la libération et qui, à ce moment-là, va être aussi extrêmement visible dans l'espace public. Hein. Quand on voit les images de la libération, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les soldats alliés, on voit la brigade Piron. Et au fond, le rôle de la résistance, lui, par contre, est relativement marginalisé. Donc on est très vite dans une logique de préparation de la reconstitution, de la reconstruction de l'armée belge au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Le but de ces cérémonies, c'est de perpétuer la mémoire de la lutte contre les nazis, ou bien de rendre hommage à ces hommes qui sont venus d'outre-Atlantique pour venir libérer l'Europe ?
Alors, je crois que c'est bien. On est plus dans l'hommage que finalement dans l'exaltation de la lutte contre le nazisme. Hein, quand on voit, je dirais, la manière dont les cérémonies se déroulent, quand on voit la teneur des discours politiques, on est plus dans des cérémonies d'hommage, même si, sans doute, contexte électoral oblige en cette année du 80e anniversaire, l'idée de lutter contre l'extrême droite n'est pas complètement disparue. Et donc, si on peut instrumentaliser certains aspects de ce débarquement dans une lutte contre l'extrême droite, Je crois que ça sera aussi utilisé par d'aucuns, mais je dirais l'idée première, c'est véritablement des cérémonies d'hommage.
Pour finir, un témoignage, pour un peu noircir ce côté du débarquement, un témoignage de jeunes femmes lors du débarquement qui ont dit avoir subi des violences sexuelles par des GI lors de ce débarquement et lors des jours qui ont suivi ce débarquement, refont surface et on dit qu'on a beaucoup utilisé les GI noirs comme souffre-douleur et comme porte-étendard de ces violences sexuelles. C'est le cas ?
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, il y a des soldats noirs, mais ils ne sont pas dans les unités combattantes, ils sont dans les unités logistiques. Et ces unités logistiques, ben forcément, comme leur rôle, c'est d'approvisionner les troupes, elles restent plus longtemps sur place. Donc, elles vont avoir plus, sans doute, que les troupes passantes, l'occasion de contact avec les populations. Et donc, on s'est rendu compte, au fond, que l'armée américaine a instrumentalisé en quelque sorte, effectivement, il y a toute une série de viols qui ont été commis à la fois par des soldats blancs et des soldats noirs. À partir du moment où il va y avoir des plaintes de la population, l'armée américaine, qui est très soucieuse de son image, ne peut pas laisser ses plaintes sans suite. Et il va y avoir, je dirais, un acharnement. On va au fond transformer ce problème, qui est un problème plus général que sont les viols de guerre, en un problème racial, et on va poursuivre de manière particulièrement lourde ces soldats afro-américains qui, effectivement, je dirais, restent plus longtemps sur place. Donc, c'est plus facile aussi de les poursuivre parce que des soldats blancs d'unités combattantes commettent des viols, mais le lendemain, je dirais, ils ne sont déjà plus là. Donc, comment les retrouver? Et donc, l'armée américaine va utiliser, en quelque sorte, c'est une armée extrêmement ségrégationniste. On a des officiers blancs et des troupes noires. Et donc, le problème racial va se retrouver dans la manière dont l'armée américaine va poursuivre un certain nombre de soldats coupables de viols. Mais donc, effectivement, cette réalité des viols, il y a ce film documentaire Hello Joe, qui est basé sur le témoignage de l'écrivain Louis Guillou, qui travaillait comme interprète pour l'armée américaine. C'est un film documentaire qui est ressorti il y a quelques jours. Et on se rend compte qu'effectivement, je dirais, le débarquement, on est aujourd'hui dans l'exaltation, le remerciement, mais il y a aussi des côtés sombres. La population civile de Normandie et de Bretagne a énormément souffert d'un certain nombre de faits militaires, hein, des populations, il y a eu énormément de civils qui ont perdu la vie, mais il y a aussi des viols de guerre qui ont accompagné ce débarquement, comme il y avait eu des viols de guerre commis par des troupes américaines en Grande-Bretagne et comme il y en aura également en Allemagne, à la fois du fait des armées britanniques, des armées américaines, mais aussi, et là évidemment le phénomène est encore bien plus considérable, commis par l'armée soviétique dans les zones libérées par les troupes soviétiques.
Eh bien voilà, donc le 6 juin, il y a 80 ans, le débarquement de Normandie avait lieu, la libération de Paris avait lieu du 19 au 25 août, et puis Bruxelles était libérée de son côté le 3 septembre 1944. Chantal Kestelot, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.